Aristote, Métaphysique, livre 10, chapitre 1 à 5. Chapitre 1. Nous avons dit précédemment, dans le livre des différentes acceptions, que l'unité s'entend de plusieurs manières. Mais ces modes nombreux peuvent se réduire en somme à quatre modes principaux, qui embrassent tout ce qui est un primitivement et en soi, et non accidentellement. Il y a d'abord la continuité, continuité pure et simple, ou bien et surtout continuité naturelle, et qui n'est pas seulement le résultat d'un contact ou d'un lien. Et parmi les êtres continus, ceux-là ont plus d'unité et une unité antérieure dont le mouvement est plus indivisible et plus simple. Il y a aussi unité, et plus encore, dans l'ensemble, dans ce qui a une figure et une forme, surtout si l'ensemble est un produit naturel, et non pas comme dans les choses qui sont unies par la colle, par un clou, par un lien, le résultat de la violence. Un tel ensemble porte en lui la cause de sa continuité. Et cette cause, c'est que son mouvement est un, indivisible dans l'espace et dans le temps. Il est donc évident que s'il y a quelque chose qui est, par sa nature, le premier principe du mouvement premier, et par mouvement premier, j'entends le mouvement circulaire, cette chose est l'unité primitive de grandeur. L'unité dont nous parlons est donc ou bien la continuité ou bien l'ensemble. Mais l'unité se dit encore de ce dont la notion est une, ce qui a lieu quand il y a l'unité de pensée, qui est la pensée indivisible. Or, la pensée indivisible, c'est la pensée de ce qui est indivisible, soit sous le rapport de la forme, soit sous le rapport du nombre. L'être particulier est indivisible numériquement. L'indivisible, sous le rapport de la forme, c'est ce qui est indivisible sous le rapport de la connaissance et de la science. L'unité primitive est, par conséquent, celle qui est la cause de l'unité des substances. Voici donc les quatre modes de l'unité. Continuité naturelle, ensemble, individu, universel. Et ce qui constitue l'unité dans tous les cas, c'est l'indivisibilité du mouvement pour certains êtres, et pour les autres, l'indivisibilité de la pensée ou de la notion. Remarquons qu'il ne faut pas confondre tout ce qui est la dénomination d'unité avec l'essence même et la notion de l'unité. L'unité a toutes les acceptions que nous venons de dire, et tout être est un qui porte en lui un de ses caractères de l'unité. Mais l'unité essentielle peut exister tantôt dans quelques-unes des choses que nous venons d'indiquer, tantôt dans d'autres choses qui se rapportent plus encore à l'unité proprement dite. Les premières ne sont des unités qu'en puissance. Quand il s'agit de l'élément et de la cause, il faut établir des distinctions dans les objets et donner la définition du nom. En effet, le feu, l'infini peut-être, si l'infini existe en soi, et toutes les choses analogues sont des éléments sous un point de vue, et sous un autre n'en sont pas. Feu et élément ne sont pas identiques l'un à l'autre dans l'essence. Mais le feu est un élément parce qu'il est un certain objet, une certaine nature. Pour le mot élément, il désigne le cas où une chose est la matière primitive qui constitue autre chose. Cette distinction s'applique aussi à la cause, à l'unité, à tous les principes analogues. Ainsi, l'essence de l'unité, c'est d'une part l'indivisibilité, c'est-à-dire l'existence déterminée, inséparable soit dans l'espace, soit sous le rapport de la forme, soit par la pensée, soit dans l'ensemble et dans la définition. Tandis que, d'une autre part, l'unité est surtout la mesure première de chaque genre d'objet, et par excellence, la mesure première de la quantité. C'est de cette mesure que procèdent les autres mesures, car la mesure de la quantité, c'est ce qui fait connaître la quantité, et la quantité en tant que quantité se connaît ou par l'unité ou par le nombre. Or, tout nombre est connu au moyen de l'unité. Ce qui fait connaître toute quantité en tant que quantité, c'est par conséquent l'unité, et la mesure primitive par laquelle on connaît est l'unité même. D'où il suit que l'unité est le principe du nombre en tant que nombre. C'est par analogie avec cette mesure que dans le reste on appelle mesure une chose première au moyen de laquelle on connaît, et que la mesure des divers genres d'être est une unité, unité de longueur, de largeur, de profondeur, de pesanteur, de vitesse. C'est que la pesanteur, la vitesse, se trouvent à la fois dans les contraires, car l'une et l'autre sont doubles. Il y a, par exemple, la pesanteur de ce qui a un poids quelconque, et la pesanteur de ce qui a un poids considérable. Il y a la vitesse de ce qui a un mouvement quelconque et la vitesse de ce qui a un mouvement précipité. En un mot, ce qui est lent a sa vitesse, ce qui est léger a sa pesanteur. Dans tous les cas dont il s'agit maintenant, la mesure, le principe, est quelque chose d'un et d'indivisible. Pour la mesure des lignes, on va jusqu'à considérer le pied comme une ligne indivisible à cause de cette nécessité de trouver dans tous les cas une mesure une et indivisible. Or, cette mesure, c'est ce qui est simple, soit sous le rapport de la qualité, soit sous celui de la quantité. Une chose à laquelle on ne peut rien retrancher, ni rien ajouter, voilà la mesure exacte. Celle du nombre est donc la plus exacte des mesures. On définit en effet la monade indivisible dans tous les sens. Les autres mesures ne sont que des imitations de la monade. Si l'on ajoutait, si l'on retranchait quelque chose au stade, au talent et en général à une grande mesure, cette addition ou ce retranchement se ferait moins sentir que si l'on opérait sur une quantité plus petite. Une chose première, à laquelle on ne peut rien retrancher qui soit appréciable au sens, tel est le caractère général de la mesure. Et pour les liquides et pour les solides, et pour la pesanteur, et pour la grandeur. Et l'on pense connaître la quantité quand on connaît par cette mesure. La mesure du mouvement, c'est le mouvement simple, le mouvement le plus rapide, car ce mouvement a une courte durée. Dans l'astronomie, il y a une unité de ce genre, qui sert de principe et de mesure. On admet que le mouvement du ciel, auquel on rapporte tous les autres, est un mouvement uniforme et le plus rapide des mouvements. L'unité dans la musique est le demi-ton, parce que c'est le plus court des sons perceptibles. Dans la syllabe, c'est la lettre. Et l'unité, dans ces cas divers, n'est pas simplement l'unité générique, c'est l'unité au sens où nous venons de l'entendre. Cependant, la mesure n'est pas toujours un objet numériquement un. Il y a quelquefois pluralité. Ainsi, le demi-ton est deux choses. Il y a le demi-ton qui n'est pas perçu par Louis, mais qui est la notion même du demi-ton. Il y a plusieurs lettres pour mesurer les syllabes. Enfin, la diagonale a deux mesures, et comme elle, le côté et toutes les grandeurs. L'unité est donc la mesure de toutes choses, parce que c'est en divisant la substance sous le rapport de la quantité ou sous le rapport de la forme que nous connaissons ce qui constitue la substance. Et l'unité est indivisible par la raison que l'élément premier de chaque être est indivisible. Cependant, les unités ne sont pas toutes indivisibles de la même manière. Voyez le pied et la monade. Il y a des unités absolument indivisibles. D'autres admettent, comme nous l'avons dit déjà, une division, en partie indivisible pour le sens, car probablement tout continu peut se diviser. Du reste, la mesure d'un objet est toujours du genre de cet objet. En général, c'est la grandeur qui mesure la grandeur. Et en particulier, on mesure la longueur par la longueur, la largeur par la largeur, le son par le son, la pesanteur par la pesanteur, les monades par la monade. C'est ainsi qu'il faut exprimer ce dernier terme et non pas dire que le nombre est la mesure des nombres. Ce qu'on devrait dire en apparence, puisque la mesure est du même genre que l'objet. Mais parler ainsi, ce ne serait pas dire ce que nous avons dit. Ce serait dire « la mesure des monades, ce sont les monades, et non pas « c'est la monade ». Le nombre est une multitude de monades. Nous donnons aussi à la science et à la sensation le nom de mesure des choses, par la même raison qu'à l'unité, elles nous donnent la connaissance des objets. En réalité, elles ont plutôt une mesure qu'elles ne servent de mesure elles-mêmes. Mais nous sommes relativement à la science, comme dans le cas où quelqu'un nous mesure. Nous connaissons quelle est notre taille parce qu'il a appliqué tant de fois la coudée sur nous. Protagoras prétend que l'homme est la mesure de toute chose. Par là, sans doute, il entend l'homme qui sait ou l'homme qui sent, c'est-à-dire l'homme qui a la science et l'homme qui a la connaissance sensible. Or, nous admettons que ce sont là des mesures des objets. Il n'y a donc rien de si merveilleux dans l'opinion de Protagoras. Mais toutefois, sa proposition n'est pas dénuée de sens. Nous avons montré que l'unité, en donnant à ce mot sa signification propre, est la mesure par excellence, qu'elle est avant tout la mesure de la quantité, qu'elle est ensuite celle de la qualité. L'indivisible sous le rapport de la quantité, l'indivisible sous le rapport de la qualité, voilà, dans l'un et l'autre cas, ce qui constitue l'unité. L'unité est par conséquent indivisible ou absolument indivisible ou en tant qu'unité. Chapitre 2. Il faut se demander quelle est l'essence, quelle est la nature des êtres, avons-nous dit, en traitant des difficultés à résoudre. Qu'est-ce donc que l'unité et quelle idée doit-on s'en faire? Considérerons-nous l'unité comme une substance, opinion que professèrent les pythagoriciens jadis et depuis Platon, ou bien n'y a-t-il pas plutôt quelque nature qui est la substance de l'unité? Faut-il ramener l'unité à un terme plus connu et adopter de préférence la méthode des physiciens, lesquels prétendent l'un que l'unité c'est l'amitié, celui-ci que c'est l'air, celui-là l'infini. S'il n'est pas possible que rien de ce qui est universel soit substance, comme nous l'avons dit en traitant de la substance et de l'être, si l'universel n'a même pas une existence substantielle, une et déterminée en dehors de la multiplicité des choses, car l'universel est commun à tous les êtres, si enfin il n'est qu'un attribut, évidemment, l'unité, elle non plus, n'est pas une substance, car l'être et l'unité sont par excellence l'attribut universel. Ainsi donc, d'un côté les universaux ne sont pas des natures et des substances indépendantes des êtres particuliers, et de l'autre, l'unité pas plus que l'être, et par les mêmes raisons, ne peut être ni un genre, ni la substance universelle des choses. D'ailleurs, l'unité doit se dire également de tous les êtres. L'être et l'unité se prennent sous autant d'acceptions l'un que l'autre. Si donc, il y a pour les qualités ainsi que pour les quantités une unité, une nature particulière, il faut bien, évidemment, qu'on se pose cette question en général. Qu'est-ce que l'unité ? Comme on se demande, qu'est-ce que l'être ? Il ne suffit pas de dire que l'unité, c'est la nature de l'unité. Dans les couleurs, l'unité est une couleur. C'est le blanc, par exemple. Toutes les couleurs semblent venir du blanc et du noir. Mais le noir n'est que la privation du blanc, comme les ténèbres sont les privations de la lumière. Car les ténèbres ne sont réellement qu'une privation de lumière. Admettons que les êtres soient des couleurs. Alors, les êtres seraient un nombre, mais quelle espèce de nombre ? Évidemment, un nombre de couleurs. Et l'unité proprement dite serait une unité particulière, par exemple le blanc. Si les êtres étaient des accords, les êtres seraient un nombre de demi-tons. Mais la substance des accords ne serait pas un nombre seulement. Et l'unité aurait pour substance non pas l'unité pure et simple, mais le demi-ton. De même encore, si les êtres étaient les éléments des syllabes, ils seraient un nombre, et l'unité serait l'élément voyelle. Enfin, il serait un nombre de figures, et l'unité serait le triangle, si les êtres étaient des figures rectilignes. Le même raisonnement s'applique à tous les autres genres. Ainsi, dans les modifications, dans les qualités, dans les quantités, dans le mouvement, il y a toujours des nombres et une unité. Le nombre est un nombre de choses particulières, et l'unité est un objet particulier, mais n'est pas elle-même la substance de cet objet. Les essences sont nécessairement dans le même cas, car cette observation s'applique également à tous les êtres. On voit alors que l'unité est dans chaque genre une nature particulière, et que l'unité n'est elle-même la nature de quoi que ce soit. Et de même que dans les couleurs, l'unité qu'il faut chercher est une couleur, de même, l'unité qu'il faut chercher dans les essences, c'est une essence. Ce qui prouve, d'ailleurs, que l'unité signifie, sous un point de vue, la même chose que l'être, c'est qu'elle accompagne, comme l'être, toutes les catégories, et comme lui, ne réside en particulier dans aucune d'elles, ni dans l'essence, ni dans la qualité, pour citer des exemples. C'est qu'ensuite, il n'y a rien de plus dans l'expression quand on dit « un homme » que quand on dit « homme ». De la même manière que l'être ne signifie pas autre chose que substance ou qualité ou quantité. C'est qu'enfin, l'unité dans son essence, c'est l'individualité même. Chapitre 3. L'unité et la pluralité sont opposées de plusieurs manières. Dans un sens, l'unité est opposée à la pluralité comme l'indivisible l'est au divisible. Car ce qui est divisé ou divisible s'appelle pluralité. Ce qui n'est ni divisible ni divisé est appelée unité. Opposé se prenant dans quatre sens différents, dont l'un est l'opposition par privation, il y aura entre l'unité et la pluralité opposition par contrariété et non point par contradiction ou par relation. L'unité s'exprime, se définit au moyen de son contraire, l'indivisible au moyen du divisible, parce que la pluralité tombe plutôt sous les sens que l'unité, le divisible plutôt que l'indivisible, de sorte que, sous le rapport de la notion sensible, la pluralité est antérieure à l'indivisible. Les modes de l'unité, comme nous l'avons dit à propos des diverses espèces d'opposition, sont l'identité, la similitude, l'égalité. Ceux de la pluralité sont l'hétérogénéité, la dissimilitude, l'inégalité. L'identité a différents sens. Il y a d'abord l'identité numérique, qu'on exprime quelquefois par ces mots « c'est un seul et même être ». Et cela a lieu quand il y a unité sous le rapport de la notion et du nombre. Par exemple, tu es identique à toi-même sous le rapport de la forme et de la matière. Identique se dit aussi quand il y a unité de notion pour la substance première. Ainsi, des lignes droites égales sont identiques. On appelle encore identique des quadrilatères égaux et qui ont leurs angles égaux, quoiqu'il y ait pluralité d'objets. Dans ce cas, l'unité consiste dans l'égalité. Les êtres sont semblables lorsque, n'étant point absolument identiques, mais différents sous le rapport de la substance et du sujet, ils sont identiques quant à la forme. Un quadrilatère plus grand est semblable à un quadrilatère plus petit. Des lignes droites inégales sont semblables. Elles sont semblables, mais non pas absolument identiques. On nomme encore semblables les choses qui, ayant la même essence, mais étant susceptibles de plus et de moins, n'ont cependant ni plus ni moins. Ou bien encore, celles dont les qualités sont spécifiquement une et identiques. C'est dans ce sens qu'on dit que ce qui est très blanc ressemble à ce qui l'est moins, parce qu'il y a alors unité d'espèce. On appelle enfin semblables les objets qui présentent plus d'analogie que de différence, soit absolument, soit simplement en apparence. Ainsi, l'étain ressemble plutôt à l'argent qu'à l'or. L'or ressemble au feu par sa couleur fauve et rougeâtre. Il est évident d'après cela que différents et dissemblables ont aussi plusieurs sens. La différence est opposée à l'identité, de sorte que tout relativement à tout est ou identique ou différent. Il y a encore différence s'il n'y a pas unité de matière et de forme. Tu diffères de ton voisin. Il y a une troisième espèce de différence, la différence dans les êtres mathématiques. Ainsi, tout relativement à tout est différent ou identique, pourvu cependant qu'il y ait unité ou être. Il n'y a point de négation absolue de l'identité. On emploie, il est vrai, l'expression non identique. Mais ce n'est jamais en parlant de ce qui n'existe pas. C'est toujours lorsqu'il s'agit d'être réel. Car on dit également un et non un, de ce qui peut être par sa nature être et un. Telle est l'opposition de l'hétérogénéité et de l'identité. L'hétérogénéité et la différence ne sont point la même chose. Pour deux êtres qui sont hétérogènes entre eux, l'hétérogénéité ne porte pas sur quelque caractère commun, car tout ce qui est ou hétérogène ou identique. mais ce qui diffère de quelque chose en diffère par quelques points, de sorte qu'il faut nécessairement que ce dans quoi il diffère soit identique. Ce quelque chose identique, c'est le genre ou l'espèce, car tout ce qui diffère, diffère de genre ou d'espèce. De genre, s'il n'y a pas matière commune et production réciproque, comme sont les objets qui appartiennent à des catégories différentes. Les choses qui diffèrent d'espèce sont celles qui sont du même genre. Le genre, c'est ce par quoi sont identiques deux choses qui diffèrent quant à l'essence. Les contraires sont différents entre eux et la contrariété est une sorte de différence. L'induction prouve l'exactitude de ce principe que nous avions avancé. Dans tous les contraires, il y a en effet, ce me semble, différence et non pas seulement hétérogénéité. Il en est qui diffèrent de genre, mais d'autres sont compris dans la même série de l'attribution, de sorte qu'ils sont identiques sous le rapport du genre et de l'espèce. Nous avons déterminé ailleurs quelles choses sont identiques et quelles choses ne le sont pas. Chapitre 4. Il est possible que les choses qui diffèrent entre elles diffèrent plus ou moins. Il y a donc une différence extrême, et c'est là ce que j'appelle contrariété. On peut établir par l'induction que la contrariété est la différence extrême. En effet, pour les choses qui diffèrent de genre, il n'y a point passage de l'une à l'autre. Il y a entre elles la plus grande distance possible, et il n'y a pas entre elles de combinaison possible. Tandis que pour les choses qui diffèrent d'espèce, il y a production des contraires par les contraires considérés comme extrêmes. Or, la distance extrême, c'est la distance la plus grande, de sorte que la distance des contraires est la plus grande distance possible. D'ailleurs, ce qu'il y a de plus grand dans chaque genre est ce qu'il y a de plus parfait, car le plus grand, c'est ce qui n'est pas susceptible d'augmentation, et le parfait, ce au-delà de quoi on ne saurait rien concevoir. La différence parfaite est une fin, au même titre que tout est dit parfait qui a pour caractère d'être la fin de quelque chose. Au-delà de la fin, il n'y a rien, car dans toute chose, elle est le dernier terme, la limite. C'est pour cela qu'il n'y a rien en dehors de la fin. Et ce qui est parfait ne manque absolument de rien. Il est évident dès lors que la contrariété est une différence parfaite. Et la contrariété ayant un grand nombre d'acceptions, ce caractère de différence parfaite l'accompagnera dans ses différents modes. Cela étant, une chose unique ne saurait avoir plusieurs contraires, car, au-delà de ce qui est extrême, il ne peut pas y avoir quelque chose qui soit plus extrême encore, et une seule distance ne peut pas avoir plus de deux extrémités. En un mot, si la contrariété est une différence, la différence n'admettant que deux termes, il n'y en aura que deux, non plus dans la différence parfaite. La définition que nous venons de donner des contraires devra s'appliquer à tous les modes de la contrariété. Car dans tous les cas, la différence parfaite est la différence la plus grande. En effet, en dehors de la différence de genre et de la différence d'espèce, nous ne pouvons pas établir d'autres différences. Et il a été démontré qu'il n'y a pas de contrariété entre les êtres qui n'appartiennent pas au même genre. Or, la différence de genre est la plus grande de toutes les différences. Les choses qui diffèrent le plus dans le même genre sont contraires, car leur différence parfaite est la différence la plus grande. De même aussi, les choses qui, dans un même sujet, diffèrent le plus sont contraires, car dans ce cas, la matière des contraires est la même. Les choses qui, soumises à un même pouvoir, diffèrent le plus, sont aussi contraires. En effet, une seule et même science embrasse tout un genre. Et dans le genre, il y a des objets que sépare la différence parfaite, la différence la plus grande. La contrariété première est celle de la possession et de la privation. Non pas toute privation, car la privation s'entend de plusieurs manières, mais la privation parfaite. Tous les autres contraires seront dits contraires d'après cela, ou parce qu'ils les possèdent, ou parce qu'ils les produisent, qu'ils sont produits par eux, enfin, parce qu'ils admettent ou repoussent ces contraires ou d'autres contraires. L'opposition comprend la contradiction, la privation, la contrariété, la relation. Or, l'opposition première est la contradiction, et il ne peut y avoir d'intermédiaire entre l'affirmation et la négation, tandis que les contraires admettent des intermédiaires. Il est donc évident qu'il n'y a pas d'identité entre la contradiction et la contrariété. Quant à la privation, elle forme avec la possession une sorte de contradiction. On dit qu'il y a privation pour un être lorsqu'il est dans l'impossibilité absolue de posséder, ou lorsqu'il ne possède pas ce qu'il est dans sa nature de posséder. La privation est ou absolue ou privation de tel genre déterminé. Car privation se prend dans divers sens, comme nous l'avons établi ailleurs. La privation est donc une sorte de négation. C'est ou en général une impuissance déterminée, ou bien cette impuissance dans un sujet. C'est là ce qui fait qu'entre la négation et l'affirmation, il n'y a pas d'intermédiaire, tandis que, dans certains cas, il y a intermédiaire entre la privation et la possession. Tout est égal ou non égal, mais tout n'est pas égal ou inégal. Sinon, dans les choses susceptibles d'égalité. Si les productions dans un sujet matériel sont le passage du contraire au contraire, et en effet, elles viennent de la forme, de la réalisation de la forme, ou bien de quelques privations de la forme et de la figure, il est évident, alors, que toute contrariété sera une privation. Mais toute privation n'est probablement pas une contrariété. La cause en est que ce qui est privé peut être privé de plusieurs manières, tandis qu'on ne donne le nom de contraire qu'aux termes extrêmes d'où provient le changement. On peut du reste l'établir par l'induction. Dans toute contrariété, il y a la privation de l'un des contraires, mais cette privation n'est point de même nature dans tous les cas. L'inégalité est la privation de l'égalité, la dissimilitude de la similitude, le vice de la vertu. Mais il y a, comme nous l'avons dit, diverses sortes de privations. Tantôt la privation est un simple manque, tantôt elle est relative au temps, à une partie spéciale. Par exemple, il peut y avoir privation à une certaine époque, privation dans une partie essentielle ou privation absolue. C'est pour cela qu'il y a des intermédiaires dans certains cas. Il y a, par exemple, l'homme qui n'est ni bon ni méchant. Et dans d'autres, non. Il faut nécessairement que tout nombre soit pair ou impair. Enfin, il y a des privations qui ont un sujet déterminé, d'autres qui n'en ont pas. Il est donc évident que toujours l'un des contraires est la privation de l'autre. Il suffira du reste que cela soit vrai pour les premiers contraires, ceux qui sont comme les genres des autres, ainsi l'unité et la pluralité, car tous les autres se ramènent à cela. Chapitre 5. L'unité étant opposée à une unité, on pourrait se poser cette difficulté. Comment l'unité est-elle opposée à la pluralité ? Car tous les contraires se ramènent à cela. Comment l'égal est-il opposé au grand et au petit ? Dans toute interrogation à deux termes, nous opposons toujours deux choses. Ainsi, est-ce blanc ou noir ? Est-ce blanc ou non blanc ? Mais nous ne disons pas « est-il homme ou blanc ?» sinon dans une hypothèse particulière. Quand nous demandons par exemple « lequel des deux est venu, Cléon ou Socrate ?» Lorsqu'il s'agit de genres différents, l'interrogation n'est pas de même nature. Ce n'est point nécessairement l'un ou l'autre. Ici même, si l'on a pu s'exprimer de la sorte, c'est qu'il y avait contrariété dans l'hypothèse, car les contraires seuls ne peuvent pas exister en même temps. Et c'est là la supposition que l'on fait ici quand on demande lequel des deux est venu. S'il était possible qu'ils fussent venus en même temps, la question serait ridicule. Et cependant, même dans ce dernier cas, il y aurait encore opposition. Opposition de l'unité et de la pluralité. Par exemple, sont-ils venus tous deux ? Ou bien un seul des deux est-il venu ? Si l'interrogation à deux termes est toujours relative au contraire, comme on fait l'interrogation relativement au plus grand, au plus petit et à l'égal, comment alors l'égal serait-il opposé au plus grand et au plus petit ? Il ne peut pas être seulement le contraire de l'un des deux. Il ne peut pas l'être non plus de tous les deux. Car pourquoi le serait-il plutôt du plus grand que du plus petit ? D'ailleurs, l'égal est encore opposé comme contraire à l'inégal, de sorte qu'une chose serait le contraire de plusieurs. D'un autre côté, si l'inégal signifie la même chose que les deux autres termes, grand et petit, l'égal sera opposé à tous les deux. Et alors, cette difficulté vient à l'appui de ceux qui disent que l'inégalité, c'est la dyade. Mais il résulte de là qu'une chose est le contraire de deux, ce qui est impossible. De plus, l'égal serait intermédiaire entre le grand et le petit. Mais aucun contraire n'est, ce semble, un intermédiaire. Cela n'est pas possible d'après la définition. La contrariété ne serait pas une différence parfaite si elle était un intermédiaire. Il est bien plus vrai de dire qu'il y a toujours des intermédiaires entre les contraires. Reste donc à dire que l'égal est opposé au grand et au petit comme négation ou comme privation. D'abord, il ne peut pas être opposé ainsi à l'un des deux seulement. Car pourquoi plutôt au grand qu'au petit ? Il sera donc la négation privative de tous les deux. C'est pourquoi, quand on pose la question, il faut toujours qu'il y ait comparaison de l'égal avec les deux autres termes, et non pas seulement avec l'un des deux. On ne dira pas « est-il plus grand ou égal, plus petit ou égal ?» mais les trois termes devront se trouver toujours réunis. Et encore, n'y aura-t-il pas nécessairement privation ? Car ce qui n'est ni plus grand ni plus petit n'est pas toujours égal. Cela ne peut avoir lieu que pour les choses qui sont naturellement grandes ou petites. Ainsi, l'égal, c'est ce qui n'est ni grand ni petit, tout en ayant naturellement la propriété d'être grand ou petit. Il est opposé à tous les deux comme négation privative, et c'est pour cela qu'il est un intermédiaire. De même, ce qui n'est ni mauvais ni bon est opposé au bon et au mauvais, mais n'a pas reçu de nom. Et cela vient de ce que le bien comme le mal se prend dans plusieurs sens. De ce que le sujet n'est pas un, il y aurait plutôt un sujet unique pour ce qui n'est ni blanc ni noir. Et pourtant, ici même, il n'y a pas réellement unité. Seulement, ce n'est qu'à certaines couleurs déterminées que s'applique cette même négation privative du noir et du blanc. En effet, il faut nécessairement que la couleur soit ou brune ou jaune ou quelque autre chose de déterminé. Ils ont donc tort, d'après cela, ceux qui prétendent qu'il en est de même dans tous les cas. Il y aurait donc, entre la chaussure et la main, un intermédiaire, qui ne serait ni la chaussure ni la main, parce qu'il y a, entre le bien et le mal, ce qui n'est ni bien ni mal. Il y aurait donc des intermédiaires entre toutes choses. Mais cette conséquence n'est pas nécessaire. Il peut y avoir négation des deux opposés à la fois. Dans les choses qui admettent quelque intermédiaire, entre lesquelles il y a naturellement un certain intervalle. Mais dans l'exemple que l'on cite, il n'y a pas différence. Les deux termes compris dans la commune négation ne sont plus du même genre. Il n'y a donc pas unité de sujet.